grève contre la réforme des retraites.
Tous les dimanches à partir de midi, 3D, le journal de Stéphane Paoli.
3D parce que dans un monde multiconnecté, les faits interagissent dans toutes les directions, dans toutes les dimensions. Pour comprendre ce monde, il faut inviter toutes les disciplines. Dès lors, tout peut arriver dans le journal 3D. À dimanche, 12h-14h au Théâtre du Rond-Point, en public, c'est-à-dire avec vous.
3D, en direct et en public du Théâtre du Rond-Point, tous les dimanches à partir de midi.
Réservation par téléphone au 01 44 95 58 81 ou par internet sur www.théâtredurondpoint.fr.
France Inter, partenaire de Déshabiller Mots, de et interprété par Léonore Schex et Flore Lurien, un striptease verbal et bourrifant tous les mardis et mercredis soirs aux Trois Baudets.
Aujourd'hui, dans Déshabiller Mots, je reçois la pumalaspe, la puranane, la pufa... Quoi ?
La pusillanimité.
La pusillanimité. Bonsoir.
Retrouvez Déshabiller Mots dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
Salut.
France Inter. La différence.
Bientôt 15h05 sur France Inter. Vous retrouvez tout de suite Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis.
Ils n'ont rien d'autre à raconter que l'histoire de Paul le Poulpe. Paul le Poulpe est mort. Et alors on a droit à ça depuis le 13h et à chaque flash, Paul le Poulpe. Et ils n'ont même pas donné sa dernière prédiction à Paul le Poulpe. Or, la dernière prédiction de Paul le Poulpe, c'est que la réforme de la retraite ne sera pas promulguée et que Sarkozy ne terminera pas son mandat. C'est ça qu'il fallait dire. Bravo Paul.
Bonsoir tout le monde. Ici Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. 22 000 personnes aujourd'hui. C'est le 26 octobre. La Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Tout le monde est rentré dans le mouvement pour tenter d'essayer de faire respecter les accords qui n'ont pas été respectés. Tout le mépris qui est annoncé aujourd'hui par le gouvernement en France les continue à l'être en Guadeloupe aussi. Faire partie ici aussi. Nous découvrons encore. Nous allons encore combattre. Et vous aussi. Force, courage à tous. On va les faire plier. Ils ne sont plus le gouvernement démocratique. Ce n'est plus qu'une oligarchie plutocratique, on le sait très bien. Le peuple doit parler. À nous maintenant.
Salut Daniel, salut Gabi, Stéphane et tous les autres auditeurs. Ici c'est Guéno en direct de Brême dans le nord de l'Allemagne. Depuis ce matin, mercredi 27 octobre à 10h, les salariés de Daimler, un sous-traitant de chez Mercedes, ont démarré un mouvement de grève pour mettre en cause l'âge de 67 ans pour le départ à retraite à taux plein. Dans leur tract, les salariés apportent leur soutien aux grévistes français et les remercient pour cet exemple donné à tous les travailleurs d'Europe. Donc voilà, je voulais répondre à ceux qui chantaient « À quand la grève générale et mondiale ?» Eh bien, c'est peut-être pour aujourd'hui que ça commence.
À 4h30 du matin, on s'est retrouvé à 250 au changement de quart de nos camarades de Petroplus, la raffinerie, qui a voté la reconduction de la grève. Et après, avec les gars de la raffinerie, on est allé vers Ruby, le dépôt de Rouen, pour essayer de reprendre ce qui nous appartient. Voilà. Donc là, il est 6h du matin, ça fait à peu près 1h30 qu'on se fait gazer, molester, mais on tient bon. On tient.
Oui, bonjour. Donc voilà, c'est une manifestation, occupation d'un local, d'un accueil du Conseil Général et de la Préfecture de la Mayenne, donc par des opposants au projet sur les retraites. Ils vont se mettre à chanter. La retraite à 60 ans. 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 Et voilà, donc on continue le combat jusqu'au retrait. Allez, salut.
Salut Daniel, c'est Pablo. Bon, mais écoute, il est 4h du mat' là et on est 300 personnes à Saint-Jory, à côté de Toulouse, en train de bloquer l'Eurocentre. C'est un gros dépôt de marchandises qui livre un peu sur toute la région. Et puis surtout, c'est le gros centre de tri régional. Donc voilà, là on est 300-400, là, les gens de la CGT, des cheminots, un peu de tout le monde. Et si tout va bien, il n'y aura pas de courrier demain en Midi-Pyrénées et pas mal d'entreprises qui seront emmerdées parce qu'elles n'auront pas leurs marchandises. Donc si tu peux dire à ta radio France Inter qu'elle arrête de dire que le mouvement est mort, que tout s'arrête, parce que voilà, nous on est motivés, au milieu de la nuit, on fait des feux de palette, on se réchauffe et on est solidaires.
Bonsoir tout le monde, ici Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, 22 000 personnes aujourd'hui, c'est le 26 octobre, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, tout le monde est rentré dans le mouvement pour tenter d'essayer de faire respecter les accords qui n'ont pas été respectés. Tout le mépris qui est annoncé aujourd'hui par le gouvernement en France les continue à l'être en Guadeloupe aussi. Faire partie ici aussi. Nous découvrons encore.
Nous allons encore combattre. Et vous aussi. Force, courage à tous. On va les faire plier. Ils ne sont plus le gouvernement démocratique. Ce n'est plus qu'une oligarchie plutocratique, car on le sait très bien. Le peuple doit parler. À nous maintenant.
Il y en a marre de la CGT, de toutes ces grèves. Aujourd'hui, moi je suis intérimaire, je suis père de famille avec mes enfants en charge. Je risque de perdre mon emploi parce qu'ils n'arrêtent pas de faire grève. À croire que le syndicat n'en a rien à branler des intérimaires et des personnes en précarité, en contrat de précarité. La sous-préfecture ne fait rien pour débloquer la situation, l'État non plus. Donc on doit porter plainte contre qui ? Contre l'interdiction de la libre circulation des gens et des personnes et des marchandises en France, contre le gouvernement, contre la préfecture, contre les CGT. Moi, je sais qu'aujourd'hui, si je perds mon emploi, je n'hésiterai pas une seule seconde à y foutre le feu à leur CGT de merde du Havre. Il y en a ras-le-bol de leurs conneries. Ils sont en train de foutre la vie de certaines personnes en l'air et ça, ils s'en branlent totalement.
Oui, bonjour, c'est Odile. Aux informations, j'ai entendu que le mouvement s'essoufflait, le mouvement des grévistes. Chez nous, c'est pas vrai. Là, aujourd'hui, le pont qui traverse le Rhône et qui croise l'ancienne nationale 82 avec l'ancienne nationale 86 était bouché par des grévistes de la région. Je trouve que c'est très bien. Donc, il y a encore des gens qui se manifestent et il faudra qu'ils se manifestent encore quelques temps. Même si ça nous embête pour aller bosser, c'est pas grave. Tant pis, on en sort au boulot et puis c'est pas grave. Par contre, j'ai aussi beaucoup aimé l'émission avec M. Mélenchon. Il dit des choses très vraies, mais alors je crois que c'est un peu trop utopiste. On y arrivera peut-être pas forcément tout de suite, mais peut-être qu'un jour on y arrivera.
Voilà, on y arrivera peut-être. Du décan, on arrive. Merci pour tous ces messages, chers AMG. Comme promis, deuxième partie de cet entretien avec Jean-Luc Mélenchon. Et puis, on ne va pas se contenter du discours de Jean-Luc Mélenchon. J'ai couru dans le couloir, c'est pour ça que je suis essoufflé. Pardonnez-moi. On va aussi s'intéresser à ce qui se passe sur le front de l'action, sur le front des occupations. Et avec Inès, on ira avec les éboueurs de Paris qui occupent la déchetterie d'Ivry et depuis un certain temps et qui sont toujours là, contrairement à la rumeur et aux informations qu'on vous donne. C'est pas tout le monde qui arrête et qui baisse les bras, c'est loin d'être la vérité, on va le voir avec ce reportage. Alors hier, ma langue a fourché, j'ai confondu, figurez-vous, parti de gauche et front de gauche, ce qui nous a valu beaucoup de messages en disant « mais faut pas confondre le parti de gauche et le front de gauche ». D'accord, c'est vrai. Mille excuses, mes remerciements pour tous vos remerciements. Vous avez été très nombreux à réagir à l'entretien d'hier avec Mélenchon. Beaucoup de ravis, enchantés, stimulés, etc. Et puis aussi des critiques, évidemment, c'est un homme politique avec des positions bien précises, bien tranchées, ce qui, évidemment, suscite des critiques et des nuances et des oppositions. C'est tout à fait normal dans le débat démocratique. Qu'est-ce qu'on a voulu faire avec ces deux entretiens, celui d'hier et d'aujourd'hui? Ben, c'est donner l'occasion, peut-être à Mélenchon, qui est très très médiatisé en ce moment, de prendre un petit peu le temps et de parler calmement, ce qui n'est pas très souvent le cas dans les altercations, les polémiques auxquels il se prête visiblement assez volontiers, quand même, il faut bien le reconnaître, ou bien les meetings qu'il peut donner, ça et là. Là, on a voulu prendre un peu plus de temps pour développer un certain nombre de thèmes avec lui. Donc voilà pour la première partie, puis ensuite à la déchetterie d'Ivry avec les éboueurs et notre Inès. Auparavant, encore quelques messages parmi les très nombreux messages que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse IGC au 01 56 40 37 37.
Nous, les habitants du plateau de Millevaches, avec les copains, CNT, FSU, CGT, Sud, Ligue des droits de l'homme, sommes installés depuis 4h du matin devant l'entrepôt de carburant de Brive-la-Gaillarde. Il est 13h30, on se tient prêt à se faire déloger par les CRS, alors on va partir sur notre action. Vous qui nous entendez, osez constituer des comités d'action locaux et participer à la mise en route de caisses de solidarité pour les grévistes. Et pour ceux du plateau, tendez l'oreille pour la suite.
Bonjour à toute l'équipe. Donc le café repère de Tours se réunit ce mercredi 27 à 19h30 chez Omar, c'est rue du Grand Marché à Tours, en espérant de vous y retrouver nombreux et nombreuses. Voilà, à demain soir, merci, ciao.
Je m'occupe d'une association qui a récemment embauché un emploi aidé, et il se trouve que le choix de notre caisse de retraite a été impossible, parce que automatiquement, et sans possibilité de recours et de changement, nous étions à la caisse de retraite Malakoff-Médéric. Donc, quand un député à l'Assemblée nationale aujourd'hui montre une photo des deux frères Sarkozy et de la corruption publique qu'implique ce système de retraite qui va bénéficier aux frères de M. Sarkozy, qui s'occupe de Malakoff-Médéric, eh bien, c'est clair et net, on ne peut même pas s'affilier à une autre caisse de retraite, c'est automatiquement pour les emplois aidés, Malakoff-Médéric. Merci Sarko.
Voilà, on parle beaucoup du frère de notre président de la République qui, en tant que dirigeant de Médéric, va se lancer dans la complémentaire retraite et espère en tirer un certain profit. Il y a une information complémentaire qui est peu diffusée, c'est que dans cette entreprise, Médéric reçoit le soutien de la Caisse des dépôts et consignations, c'est-à-dire de l'État. Voilà, de là à penser qu'il y aurait, comment dire ça, une certaine collision entre les intérêts privés et les intérêts publics représentés l'un et l'autre par les deux membres d'une même famille, je ne me permettrai pas d'aller aussi loin parce que je pense que ça tombe sous le coup de la loi sur la diffamation.
Des nouvelles de Perpignan, là on est devant le Leclerc, on tracte contre les mesures discriminatoires de l'établissement à l'encontre de certains jeunes. Et surtout, on tracte aussi contre la réforme des retraites et on discute avec tout le monde. Et là, bon, ils sont un peu énervés, ils ont appelé les CRS, je ne sais pas s'ils vont arriver, mais en tout cas, tous les jours à Perpignan, on va faire des actions comme ça. On fait des AG, on discute, on laisse rien tomber. Salut.
Leclerc, supermarché, les portes d'Albi, Albi. Ce cher supermarché fait partie de ceux qui ont honteusement profité de la pénurie de carburant pour augmenter de plus de 10 centimes le litre. Ceci est une dénonciation citoyenne d'un AMG.
Demain, le 28 à 10h, il y a une manif devant le siège du MEDEF à Cergy, dans le Val d'Oise, donc à 10h, au 7 avenue de la Palette. À demain.
Salut Daniel, et salut à tous les AMG du Var. Ce jeudi 28 octobre, nous vous donnons rendez-vous au Café Repère de Brignoles qui se tiendra comme tous les quatrièmes jeudis du mois au Café L'Oasis, rebaptisé depuis lundi l'Oasis Palace. Nous vous invitons à venir partager le repas façon auberge espagnole et assister à la conférence de Christian Vélo, qui est maître de conférence et chercheur en génétique moléculaire. Il nous propose de nous dire un OGM, qu'est-ce que c'est ? Et accessoirement, nous invitons aussi à venir visiter le marbre des toilettes.
Salut, ce mercredi, c'est la sortie au cinéma de Fin de Concession, le dernier film de Pierre Karl. Et pour fêter ça, il y a un grand rassemblement festif qui est prévu à 19h, ce mercredi 27, place de la Concorde, devant le Dîner du siècle à Paris. Le Dîner du siècle, c'est le rendez-vous des élites de ce pays, hommes d'affaires, politiques, journalistes. Donc ça, c'est à 19h, place de la Concorde, et ce sera suivi de la projection du film, la première, à l'Espace Saint-Michel, à Paris, à 20h20. Voilà, venez nombreux, c'était Mathieu de Paris, ciao.
Faut rien lâcher, parce qu'ils veulent tout. Ils veulent tout privatiser. Et quand tout sera privé, on sera privé de tout.
Salut aux AMG d'Alès et de sa région. Le prochain Café Repère aura lieu le mercredi 27 octobre, à 19h, au lieu habituel, c'est-à-dire au Vintage du Bike Café, 48, route du pont de Grabieux, à Alès, donc, face à Monsieur Meuble. Mobilisés, déterminés, révoltés, à nous de nous en mêler.
Depuis deux jours, on nous annonce que le trafic SNCF est quasi normal. Faux. Allez voir sur Saint-Lazare, trafic réduit hier, aujourd'hui, demain, évidemment. Quel est le but poursuivi par l'info officielle ? Démobiliser les gens qui veulent continuer ? Encore un mot sur les infos très filtrées qui nous parviennent. Qui a entendu parler de la manifestation pacifiste des pompiers des Alpes-Maritimes qui se sont fait salement castagner par les CRS? L'un d'eux s'est retrouvé à l'hôpital après un coup de matraque. Les temps changent, pas les CRS.
Salut les AMG. Le repère de Bernin dans le Grésivaudan se tiendra demain, jeudi, à la brasserie du Chardon. Ce mois-ci, on reçoit des membres du collectif Pièces et Main-d'œuvre qui viennent nous parler des nanotechnologies, d'IBM et de la société de contrainte. Les PMO vont nous raconter leur résistance citoyenne face à la machine à fabriquer du consentement. Rendez-vous à la brasserie du Chardon, à Bernin, dès 19h30.
Bonjour à tous les AMG de France et du monde entier. Moi, c'est Anna. Je viens vous annoncer le prochain repère de Castres dans le Tarn. Ce sera le mercredi 27 octobre à 19h19, pétante, au bar Le Zazou, place de l'Albinque à Castres.
Et que se vayan todos.
Que se vayan todos.
Que se vayan todos.
Que se vayan todos.
Ça vient d'où? On se demandait en venant si ça vient de l'Argentine, ça vient d'où exactement?
Alors, ça a commencé en Argentine.
Jean-Luc Mélenchon.
Au moment de la crise qui a abouti à ce résultat, qu'il y a eu 3 présidents en l'espace de 20 jours ou 3 semaines, je ne me rappelle plus, le système argentin s'est effondré du fait d'un incident minime, hein, qui est, enfin minime, pas si minime que ça, mais il y avait déjà une pagaille incroyable, plus rien ne marchait, un peu comme chez nous, hein. Les libéraux avaient tout détruit, ou beaucoup de choses, et tous ces types avaient mis leur pays en ruine. Et il y avait déjà des prolétaires qui faisaient des piquets de grève un peu partout, les piquets terroristes, mais tout le monde s'en fout, parce que les ouvriers, qui s'intéressent, personne, là-bas comme ici. Et un jour, une banque a une difficulté pour donner de l'argent aux gens qui viennent récupérer, et le système commence à s'effondrer. Et à ce moment-là, toute la pourriture, la paralysie, l'incapacité absolue des élites de cette société, de l'oligarchie qui les tient, à régler les problèmes, apparaît au grand jour et surgit le mot d'ordre « Que se vayan todos ». Allez-vous-en tous, qu'ils s'en aillent tous.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Inès Leroy, là-bas si j'y suis, avec Jean-Luc Mélenchon, qu'ils s'en aillent tous.
Flight number 2, arriving from New York.
Jean-Luc, il y a un mot dont on parle beaucoup à votre sujet et dont vous parlez aussi beaucoup qu'on va mettre un peu de côté, c'est le mot populisme, mais il y en a un qui est aussi péjoratif, c'est protectionnisme. Quelle est la place du protectionnisme dans votre projet? Parce que ça, c'est un vrai gros mot, protectionnisme.
Oui, ah ben déjà, populisme, ce qui me fait rigoler, c'est que ceux qui me traitent de populiste ne sont pas capables de dire de quoi ils parlent. Moi, je veux bien, ils font une définition, puis on va s'accorder avec moi. Bon, mais moi, je suis crâne, vous savez, je baisse pas les yeux. Donc le premier qui m'a dit « Vous êtes un populiste de gauche », je dis « Bah ouais, si vous voulez, puisque moi, je suis pas fâché avec le peuple comme vous ». Et alors de là, c'est parti, en boucle, me voilà repas en populisme. Ça m'est complètement égal, du moment que ça provoque un débat. On dit, mais c'est quoi le populisme? Évidemment que je gagne tout le temps dans ce débat-là, parce qu'à la fin, c'est les autres qui montrent qu'ils n'aiment pas le peuple. Alors, pour le protectionnisme, c'est pareil. On nous dit, attention, le protectionnisme, danger absolu. Très bien, démontrez. S'il vous plaît, démontrez. Alors, il n'y a plus de démonstration. Il y a des affirmations à caractère magique. Moi, je sors mes chiffres. Je montre que le développement du commerce international va plus vite que le développement de la production. Ça veut donc dire qu'on produit de plus en plus pour envoyer ailleurs. Quelle est l'utilité sociale d'une telle méthode? Expliquez-moi, où est l'avantage comparatif pour aller coudre un jean en Tunisie, transporter le tissu en bateau depuis l'Asie jusqu'à la Tunisie, et ensuite venir le vendre en France? Quel est l'avantage comparatif? Est-ce que le tissu est mieux traité, il est plus chaud, plus sec en Asie? Est-ce que la couture est plus solide en Tunisie? Ça n'a aucun sens tout ça. C'est uniquement le seul facteur qui justifie un tel déménagement permanent du monde, c'est les coûts sociaux et le dumping social. Par conséquent, mon raisonnement est le suivant. Il faut relocaliser tout ce qui peut l'être et changer ce qui doit l'être. Alors il y a des retards de développement qui font que certaines marchandises, en effet, ne sont pas forcément accessibles parce qu'elles ne sont pas produites. Je vais vous dire un exemple caricatural. On ne produit plus un seul appareil photo en France. Pourtant en France, que l'appareil photo a été inventé. Bon, on peut penser que pendant un certain temps, il faudra continuer à en importer. Mais on n'est peut-être pas non plus obligé de faire n'importe quel appareil photo. On n'est pas obligé de mettre des piles partout. On n'est pas obligé... Bref, ça veut dire le contenu de la production aussi un sens. Donc relocaliser...
Réindustrialiser.
Ah bah évidemment. Vous savez, pendant 20 ans ou 30 ans, on a écouté des sornettes sur le thème « L'avenir du monde, c'est les industries de service ». Alors, les industries de service, c'était pour le monde développé, et puis la production, c'était pour le monde sous-développé, les scrofuleux, les bons à rien, bon, voilà. Alors on disait, bah, oui, oui, les Chinois, ils vont fabriquer des parasols et des patins à roulettes, et nous, on va faire les ordinateurs, je sais pas quoi. Résultat, les Chinois, ils font les patins à roulettes, les parasols, les ordinateurs, à la reste. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On vend des assurances. Vous croyez que ça dure combien de temps? Ça veut dire qu'à voir dans quel état sont les États-Unis d'Amérique, où les principales entreprises, je pense à la General Motors qui a moitié coulé, là, elle fait plus de profit en plaçant son fric qu'en vendant des bagnoles. C'est-à-dire que vous avez affaire, le cœur du monde, les États-Unis d'Amérique, qui sont la cause principale de l'infection générale du monde, qui est un pays qui est en voie de désindustrialisation radicale, dans lequel l'économie de service représente le 80% de la production de richesse. Le 80%. Ça veut dire que cela, hop, vous leur coupez le canal par lequel le fric arrive, par lequel ils peuvent racheter eux-mêmes leurs dettes et vivre à crédit du reste du monde, et ils sont morts. Moi, je ne veux pas ça pour mon pays. Donc, je propose qu'on relocalise. On peut le faire en Europe, tant mieux. On ne peut pas le faire, on fait sans eux. Voilà. Et après, on me dit, mais vous allez vous enfermer. Mais pas du tout, il faut lire mon livre jusqu'au bout, puis il ne faut pas pleurer tout le temps. J'ai dit, on peut s'entendre, mais avec qui il faut s'entendre? Je propose qu'on ne s'entende pas avec les Américains. Pourtant, sans que vous le sachiez, le grand marché transatlantique est en train de se mettre en place. J'ai envoyé des papiers partout, des brochures et tout, tout le monde s'en fout. En 2015. C'est-à-dire que ce qu'on a fait au niveau européen, cet espace sans frontières, est totalement dérégulé, socialement, fiscalement. On veut faire la même chose avec les États-Unis d'Amérique, en 2015, pas dans 100 ans. Je propose qu'on arrête ça. Moi, je ne veux pas que l'industrie et l'économie française soient corrélées à celles des États-Unis d'Amérique, est un bateau en train de couler, et il est temps de sortir notre barque de secours. Et notre barque de secours, c'est d'avoir pour partenaire les gens qui produisent quelque chose, avec qui il faut discuter.
Et là, les vrais journalistes, que je ne suis pas, vous dites, alors vous vous tournez vers la Chine, monsieur Mélenchon.
D'autant que c'est écrit dans le livre. Alors en général, ils poussent des cris de putois. Non mais vous vous rendez compte, la Chine qui exploite, qui fait ci, qui fait ça. Parce que les Américains, eux, c'est un paradis humaniste, tout le monde le sait. Hein.
Démocratie.
Oui, c'est une démocratie, bien sûr, voilà, c'est déjà ça. Hein. C'est une démocratie où c'est les mêmes qui votent pour les mêmes, dans un océan de pognon, où tout le monde est corrompu. C'est magnifique, non? Bon. Faut être sérieux. Et le sérieux, c'est de savoir que dans l'arène internationale, il y a des partenaires. Et que en politique internationale, on n'a pas d'amis, on n'a que des intérêts. Voilà. Et on fait avec ça. Et l'intérêt de la France, c'est de discuter avec des gens sérieux, stables, qui ne viennent pas uniquement pour vous faire les poches. Les Chinois veulent commercer, très bien, on discute. C'est un choc terrible pour les Européens, comme pour tous les Occidentaux, entre guillemets, que le contact avec les Chinois. C'est la première fois de leur vie qu'ils tombent sur un peuple qui n'a rien à foutre de vous. C'est quand même énorme, hein. Ils n'en ont rien à faire. Ils sont 1 milliard 400 millions. Ils se considèrent comme l'empire du milieu. Ils n'ont pas un seul soldat à l'étranger. Pas une base. Les Américains ont 600 000 hommes à l'étranger. 700 bases dans le monde. Alors on me dit, oui, ils arrivent d'une autre manière. Ben justement, c'est bien ça le problème. Donc faut discuter. Faut discuter avec eux. Et ça sert à rien de faire comme s'ils n'existaient pas, ou de compter sur l'oncle Sam pour régler le problème. Donc, bon, là, je ne développe pas plus avant, mais je pense qu'on peut avoir avec eux une discussion raisonnée et raisonnable. Ça ne veut pas dire qu'on approuve leur régime politique, on n'en voudrait pas chez nous, hein, ça c'est tout à fait clair, c'est pas ça que je propose, mais c'est pas le sujet. Voilà, le sujet, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Il faut arrêter de mépriser les Chinois, parce que les Chinois envoient des vols habités. Les Chinois, pour le cas où vous n'auriez pas remarqué, ils éclairent des satellites, comme on dit en langage euphémique. Ça veut dire qu'ils sont capables, depuis le sol, de vous descendre un truc qui est satellisé. Ce qui veut dire que militairement, personne ne leur fait la nique. Vous voyez? Bon. Donc tout ça, il faut avoir du réalisme. Et nous, les Français, on est habitués à ça. Parce que dans notre histoire longue, quand tout le monde était en pleine hystérie catholique, avec Charles Quint et compagnie, le roi François Ier, lui, s'entendait avec le sultan. C'était l'horreur, hein. Tous les autres le traitaient de démon, de fou. Comment vous rendez pas compte? Vous entendez avec des musulmans? Ben ouais. Et la République laïque française, elle s'est entendue avec le tsar. Pourquoi? Ben parce qu'il y avait un autre problème plus important que le tsar qui s'appelait le Kaiser. Et donc aujourd'hui, il y a un problème plus important que celui qu'on nous met sous le nez, et ça s'appelle les États-Unis d'Amérique. C'est eux le problème du monde. Ça touche pas leur régime politique, ça touche le fait que ce pays, s'il devait être mis aux normes auxquelles a été mis la Grèce, il faut qu'il bosse pendant 200 ans sans bouffer ni s'habiller pour arriver à rétablir l'équilibre entre la masse monétaire qu'ils ont mis en circulation dans le monde, qui représente rien du tout, hein, et la valeur matérielle qu'ils produisent. Est-ce que les gens se rendent compte que c'est ça le vrai danger, là, à l'heure à laquelle nous parlons? Vous ne pouvez pas savoir si dans 2 heures, ce système va pas se péter la gueule. Parce que ça dépend, pouf, d'un battement d'aile de papillon, un type qui perd son sang-froid. Par exemple, nous trois, là, qu'on est là, on prend là mon assistant qui est à côté, les quatre, on va avec une pancarte devant une banque. Et on dit, rendez-nous nos sous tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, à votre avis? Ils vont pas vous les donner. Vous avez qu'à y aller. Allez à votre banque et dites, voilà, aujourd'hui, je retire 10 000 euros. Vous dites, alors, passez dans 10 jours. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde vient. Qui est-ce qui peut donner la contrepartie à ce qui est écrit sur votre papier? Personne. Personne. Ce qui veut dire que ce système est à la merci d'un incident, n'importe où dans le monde, sur n'importe quoi. Un type qui règle mal son divorce, il vend sa maison, il n'y a personne pour la racheter, ça vous fait la crise des subprimes. Et le monde entier va au tapis. C'est ça le monde dans lequel on vit. Et alors, on vient après ça me dire, mais comment, monsieur Mélenchon, vous faites de l'anti-américanisme primaire? Ben, je ferai de l'anti-américanisme supérieur quand il y aura de l'américanisme supérieur, d'accord? Et d'ici là, je m'occupe de mon pays, et ça peut pas continuer comme ça. Les États-Unis d'Amérique sont en train de nous asphyxier.
Ils sont riches parce que nous sommes pauvres. We got Americans with family and can't even buy meals. Demande à ton pote dont la boîte a été restructurée s'il a touché le pactole. Mais ce n'est pas une question de classe. Le thème des classes sociales ne fait pas vraiment partie des discussions de tous les jours dans la vie politique américaine. À l'ombre de la bombe atomique, tout est cassé, rien ne fonctionne. Pourtant, toute cette merde, j'ai bien dû la payer. Une meilleure vie que ça, ça doit bien exister. Ah, le bonheur américain, mais c'est pas vraiment le pied. Et j'y vois pas clair, comme tous les copains qui se font défoncer la gueule. Tu travailles si tard qu'à la fin tu t'écroules. Et tu gagnes quoi? Une, deux pièces, pas vraiment le bon deal. Mais je travaille toute ma vie pour finir le mois. Mais je travaille toute ma vie pour leur payer le foie gras. Il faut bien que quelqu'un paie pour qu'ils vivent comme des rois. Il faudra bien que quelqu'un paie pour qu'ils vivent comme des rois. Que ce soit moi ou le type en bas de la rue, un gamin de Tijuana ou une maman au Ghana, il faudra bien que quelqu'un paie pour qu'ils vivent comme des rois. La société est divisée en classes. Il y a des gens qui travaillent très très dur et qui gagnent très très peu. Il y a des gens qui ne travaillent pas trop dur. Et quand ils travaillent, ce n'est finalement que des ennuis pour nous autres. Ce qu'ils produisent, c'est dangereux.
Alors revenons justement pour finir à notre pays, à votre front de gauche, et au présidentiel de 2012, vers laquelle vous allez flamberge au vent. Je voudrais savoir, sur le front de gauche, on a un parti en Allemagne qui vous fait modèle, qui s'appelle Die Linke. Je voudrais savoir, dans cette gauche de gauche, ou gauche sociale, enfin, c'est vous qui allez la
moi
définir.
Moi, j'ai appelé ça l'autre gauche, parce que l'autre gauche. Bien trouver un mot. On disait l'extrême gauche, franchement, je ne suis pas d'extrême gauche. Alors, si un gars comme moi est d'extrême gauche, alors Besancenot, c'est quoi?
Voilà, justement, vous parlez de Besancenot. Qu'est-ce qui vous différencie du NPA? Et le mot est peut-être un peu fort, mais quel front commun vous voyez avec l'ensemble de la gauche sociale, ou gauche de gauche, ou l'autre gauche?
Alors, d'abord, moi, je stabilise le mot. J'appelle ça l'autre gauche. Pourquoi l'autre gauche? Parce qu'il y a une gauche dominante, qui est la gauche social-démocrate, avec la stratégie que j'ai décrite tout à l'heure, qui est une stratégie erronée qui nous emmène dans le mur. Ça n'a rien à voir avec la qualité des personnes. C'est une question de stratégie. Hein. Il faut dépersonnaliser la politique si on veut politiser les personnes. Hein. C'est opération sanitaire numéro un. Donc, moi, ma contradiction avec le courant social-démocrate, c'est que sa stratégie nous emmène nulle part. Si ça nous menait quelque part, moi, je serais d'accord, je le ferais avec eux, parce que mieux vaut un petit quelque chose que rien du tout. Mais avec ce qu'ils ont, c'est non seulement rien, mais moins que rien. Hein. Il n'y a qu'à voir dans quel état ils ont mis les conquêtes sociales dans les pays où ils avaient eux-mêmes créé l'état social. Alors maintenant, cette autre gauche, il s'agissait de la rassembler parce que c'est une autre gauche qui a en commun un socle, c'est le rejet du système capitaliste. C'est pas le cas des sociodémocrates. Mais nous tous, dans l'autre gauche, tous nous avons en commun l'idée que la cause du mal, c'est le capitalisme. Et que donc, notre projet est de faire reculer le capitalisme.
Reculer ou détruire le capitalisme. Alors, c'est pas tout à fait la même...
Non, c'est vrai. Certains pensent que on peut l'éradiquer totalement et en un seul coup, ou en plusieurs coups.
C'est ce que vous avez cru dans votre jeunesse.
Oui, moi j'ai été trotskiste. Quand j'avais 19, 20 ans, j'ai été 3 ans trotskiste. Ce sont de très belles années de ma vie intellectuelle et politique. Il y avait des révolutions socialistes partout dans le monde. Et être communiste, à l'époque, était quelque chose de raisonnable. Et être trotskiste, c'était être un communiste qui n'est pas d'accord avec les méthodes des staliniens, des maoïstes, des albanais. Bon, voilà, on n'était pas d'accord avec ça. Hein. J'en suis tout à fait fier. Et puis, je pense que ceux qui n'étaient pas normaux, c'est ceux qui n'étaient pas révolutionnaires, parce que c'était trop excitant de voir qu'on pouvait changer le monde. Hein. Donc, on a ça en commun. Après, bon, moi, je suis un républicain. Donc, c'est très important. Hein. Je sais que ça énerve beaucoup de monde. Dans l'autre gauche, mais dans l'autre gauche, c'est pas certains rabotent leurs convictions et les autres les font fleurir comme champignons sous la pluie. Donc cette autre gauche, elle a ce socle en commun. Elle pense que la racine du désordre et de la souffrance est le capitalisme. Alors les uns pensent qu'il faut l'éradiquer, les autres pensent que la stratégie qui consiste à le faire reculer peut conduire à l'éradiquer. Mais j'admets qu'il y a une divergence stratégique. C'est ça qui explique la différence qu'il y a entre le front de gauche qui regroupe le Parti communiste français, le Parti de gauche et la petite gauche unitaire, qui est une scission du NPA. Je dis petite, c'est pas petite dans ses ambitions. C'est petite parce que c'est la dernière arrivée et pas la plus nombreuse. Voilà, ça veut rien dire d'autre. Mais ce sont des camarades très brillants. Entre ceux-là, qui décident de faire cause commune, de présenter ensemble des candidats à toutes les élections, d'essayer d'écrire un programme ensemble, et le NPA, qui, lui, se vit comme une avant-garde révolutionnaire, qui ne veut s'entendre avec personne, parce qu'il estime que lui, il est en situation d'entraîner la majorité du peuple français. Je suppose, c'est à lui qu'il faudrait poser la question. Donc c'est pas la même stratégie. Ma stratégie révolutionnaire, c'est celle qui consiste à dire on va gagner dans les urnes. Et une fois qu'on aura gagné dans les urnes, on va continuer la lutte révolutionnaire, par les urnes, comme ça se fait en Amérique du Sud. C'est à chaque fois qu'il y a un problème qui est trop compliqué, on vote. Voilà. Et puis on voit le résultat. Et si le résultat, c'est... encore, eh ben, on continue, et si ça suffit, on s'en va. Parce qu'on accepte la règle de la démocratie. Mais pour ça, il faut être très bon. Hein. C'est d'un niveau. C'est plus compliqué de gagner des élections que de mettre des policiers partout.
Jean-Luc Mélenchon, je voudrais qu'on reprenne l'histoire de l'électorat populaire. Là, ces jours-ci, on va célébrer un sinistre anniversaire. C'est le meurtre de deux gamins à Clichy-sous-Bois. Et on va aussi évoquer, bien évidemment, les émeutes de 2005. Dans les banlieues. Quelle est votre idée pour rejoindre cet électorat populaire qui, on l'a dit et redit, s'est abstenu c'est massivement aux dernières élections, notamment régionales?
Bah déjà, il faut avoir le discours et les propositions qui correspondent aux ressentis de ces milieux et à leurs espérances. Parce que les bourgeois et les médiacrates voient le peuple des banlieues comme des hordes dangereuses. Moi, j'ai été élu de banlieue presque 20 ans. Je sais bien que la situation, du fait de la pauvreté, s'est dégradée. Je n'y vis plus depuis 5 ans maintenant. Hein. J'habite Paris, donc j'ai une vie de privilégié à Paris, c'est tout à fait évident. Mais la banlieue, c'est d'abord des milliers de réussites individuelles. Mais c'est pas que ça. C'est aussi une dèche abominable. Et puis c'est des choses qui se superposent. Les très pauvres, les voyous, les gens qui ont du boulot, ceux qui n'en ont pas. Bref, mille et une situations. Il faut donc donner une perspective qui rassemble, qui regroupe, qui retrace une ligne d'horizon. C'est ça que j'appelle la révolution citoyenne.
Ce que faisait le Parti communiste dans les banlieues rouges autrefois?
Oui, le Parti communiste faisait ça très bien. Lorsque j'ai adhéré au Parti socialiste dans les années 70... dans la même banlieue que celle dont j'ai été l'élu, il y avait la petite classe moyenne, mais qui était extrêmement optimiste pour l'avenir. Il y avait une espèce d'espérance dans le futur. Il y avait plein d'associations, les plus diverses. Dans mon quartier, il y avait un gars qui faisait une association de collectionneurs de couverts de boîtes de camembert. C'est pour vous dire, il y avait une certaine joie et gaieté qui s'est un peu retirée de classes sociales qui ne croient plus en l'avenir. Donc la première des choses à faire, c'est un programme qui permette réellement de changer la vie des gens. Et on ne peut rien changer si on ne partage pas. On ne peut rien changer si on ne construit pas du logement. On ne peut rien changer si on ne donne pas du travail. Le travail, Et pour qu'il y ait du travail, ben, il y a X conditions à réunir. Bon, c'est pas votre question, mais je vous réponds. Quant à la
Si, c'est quand même l'essentiel dans cette histoire-là.
Ah ben oui, ben, la tâche numéro un, c'est définanciariser l'économie. La tâche numéro deux, c'est avoir une perspective globale. Moi, j'appelle ça la planification écologique. Vous savez, c'est du boulot, ça. Hein. Donc, c'est clair que cette politique-là, je suis obligé de l'appeler révolutionnaire, parce que ceux qui possèdent ne vont pas se laisser faire. Je parle pas des petits patrons, les gens... Alors, encore moins les gens qui ont leur pavillon et tout ça. Bon, les conneries qu'on nous racontait en 81, on nous disait, vous allez confisquer les pavillons et les voitures individuelles, et sinon, l'armée rouge est à 48 heures, elle va venir prendre le reste. Les gens ne le croient pas aujourd'hui, mais c'était ça, la propagande de la droite. Donc, je suis conscient que ce que je propose est de nature révolutionnaire, puisqu'il s'agit d'affronter un système qui va se défendre. Bon, à quelle férocité il se défend en Amérique latine, hein. Donc, c'est par cette méthode-là qu'on arrivera à relancer la production et l'emploi dans notre pays, une production raisonnée.
On revient à l'Amérique latine.
On revient à Allende, par exemple. Hein? On revient à Allende, justement, qui a fait une révolution par les urnes.
Oui, qui a
mal tourné. Parce qu'on y était il y a quelques jours.
Bah, il a... Oui, mais en même temps, on a vu la limite de la méthode de Salvador Allende. C'est précisément qu'il ne s'est pas préoccupé de l'implication populaire et qu'il a cru que s'il respectait absolument la légalité constitutionnelle, les militaires n'interviendraient pas. Il n'arrivait pas à comprendre que le choc serait total et que les États-Unis d'Amérique, tout ça est maintenant des faits connus, hein, payaient l'opposition pour organiser des grèves de déstabilisation, etc. Donc Salvador Allende demandait à chaque fois aux camarades de tempérer leurs revendications, de cesser les occupations de terres. Bon, il se trompait parce que cette implication populaire croissante, c'était ça qui l'aurait protégé et qui aurait protégé la révolution citoyenne qu'il avait lui déclenchée. Mais il ne l'a pas fait, c'est son erreur. Mais c'était pas très compliqué à faire. Supposons que les gens occupent les terres. Bon, là, c'est pas prévu, c'est pas la loi, il y a un droit de propriété. Bon, mais très bien. On regarde, on fait une réforme agraire, on dit on va faire comme ci, on va faire comme ça, bon. Et puis on vote, vous êtes pour, vous êtes contre. Et puis il y a un débat. Mais en France, c'est pareil, même aujourd'hui sur les retraites, vous avez des gens de droite dans la rue qui manifestent, qui donnent des sous. Mais enfin, c'est des êtres humains comme les autres. Il ne faut pas avoir une mentalité de guerre civile, il faut avoir une mentalité de conviction. Partir de l'idée qu'on peut convaincre à peu près tout le monde, sauf les très riches, parce que c'est leur intérêt, c'est que le système continue. Mais même parmi ceux-là, il y en a qu'on peut convaincre de changer de camp et d'aider la révolution citoyenne. Et vous verrez, il y a des gens qui vont m'aider, qui ont des sous. On dira, mais pourquoi vous faites ça, monsieur, c'est quoi de votre intérêt? Ben, ils diront, comme moi-même j'ai dit, dans la vie c'est quoi? Tu dis profite et tais-toi. Ou bien t'es un être humain et tu réalises tes devoirs à l'égard des autres êtres humains. Il faut que l'oligarchie et les élites qui sont dépendantes de cette suite dorée de la bourgeoisie, comme disait Marx, les laquais qui marchent autour des fois sans même le savoir, qui se comportent comme des domestiques, il faut qu'ils comprennent ce que Sartre enseigne sur le sujet concernant la bonne conscience. La bonne conscience, celui qui pense que, comme le gars là du monde, que, hein, il pense que lui c'est tout. Et du coup, il ne s'intéresse pas à la condition réelle des autres. Hein. Donc son point de vue de bonne conscience, un point de vue abstrait, qui le dispense de responsabilité à l'égard de la situation réelle des autres. Et c'est ce que Sartre appelle les salauds, parce qu'ils se mettent à l'abri de cette bonne conscience pour ne rien faire et ne pas assumer leur devoir d'être humain. Et moi, je soutiens que tout le monde a envie d'assumer son devoir d'être humain. Et que notre force de conviction, elle est plus grande que les résistances des chaînes de l'argent. On peut briser ça, même dans la tête des gens qui en ont plein.
Ay, Nicaragua, Nicaragüita. La flor más linda de mi querer. Abonada con la bendita Nicaragüita. Sangre de Tiriangen. Ay, Nicaragua, sos más dulcita. Es la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más.
Ay, Nicaragua, Nicaragüita.
¡Ese!
On m'entend ? Est-ce que tout le monde m'entend, les camarades ? Oui, je voulais déjà remercier parce que, bon, je viens d'avoir un don, là, des animateurs. Alors, j'ai pas eu le temps de prendre tout leur pédigré, mais je pense que c'est des camarades. Et je tenais à les remercier, puis au nom de la CGT Nettoiement, pour le soutien, ils viennent de nous amener 100 euros. Et là, je crois qu'on peut les applaudir.
Voilà, du discours de Jean-Luc Mélenchon au terrain. Et le terrain, c'est le centre de traitement des déchets à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, tout près de Paris. Immense entreprise où on se relaie, où on occupe le lieu, le site, depuis déjà plusieurs jours. Et depuis plusieurs jours, Inès est parmi ces grévistes, parmi ceux qui sont là, dans leur vie quotidienne, dans leurs espoirs, dans leurs attentes, dans leur fatigue, dans leur attente de quoi au juste, dans leur solidarité, et puis dans ce plaisir formidable, cet étonnement de voir des voitures qui s'arrêtent, qui klaxonnent pour les encourager, qui leur apportent un peu de fric, qui leur apportent des choses à manger, à boire, etc. Eux qui, eh bien, font le pic à l'irène, sont là de jour comme de nuit pour occuper ce lieu. Ce qu'on va rencontrer, ce sont des éboueurs de la ville de Paris qui travaillent pour la ville de Paris.
Voilà, on est au pied de l'usine d'incinération d'ordures Tiru. Il y a les deux grandes cheminées métalliques qui s'élèvent au-dessus de nos têtes et qui crache presque plus de fumée, parce que ça fait 3 jours que les éboueurs de Paris bloquent l'entrée de l'usine, que les camions de poubelles ne peuvent plus décharger leurs déchets dans l'usine d'incinération, et que donc elle n'a plus rien à brûler. C'est une des plus grandes usines d'incinération de France et même d'Europe, avec 1200 tonnes qui sont brûlées chaque jour. Là, il est 23h, il fait assez froid, c'est la pleine lune. Ils sont une quarantaine des boueurs à bloquer l'entrée de l'usine jour et nuit, ils dorment sur place. Et là, ils sont autour d'un feu qu'ils ont fait devant la porte d'entrée. Et devant l'entrée de l'usine, il y a une pancarte. Politique multinationale, vous avez oublié les vrais actionnaires, c'est nous.
Olivier, 38 ans.
3 enfants, je travaille comme éboueur à la ville et voilà. Je participe avec mes collègues à faire la grève, à tout bloquer pour qu'on ait le droit des retraites, nous, nos enfants, nos petits-enfants. Ouais, j'ai mis mon gilet fluorescent parce que voilà, il n'y a pas de honte à être éboueur, on représente, nous on fait un blocus et il faut qu'ils sachent qui on est et voilà, on restera autant de temps qu'il faut à lutter avec tous les collègues qui peuvent lutter. Chaque action mise bout à bout fera plier le gouvernement et nous, c'est ce qu'on cherche quoi. Aider les autres qui sont déjà en lutte et inciter les autres à venir avec nous, nous rejoindre pour qu'il y ait une lutte qui s'intensifie, que Sarkozy y plie au final, voilà. En espérant que les médias ils nous suivent et qu'ils disent ce qui se passe réellement. L'idée de départ, c'est de les bloquer, que les poubelles soient plus ramassées à Paris, que tout soit bloqué comme à Marseille, que ça leur coûte de l'argent un maximum, qu'ils comprennent que nous aussi on leur apporte de l'argent, et que s'ils veulent continuer à faire de l'argent, et ben, ils font compter sur nous aussi et nous en donner un peu, partager le gâteau. Là, nous, on est là depuis mardi matin. Moi, j'ai fait la première nuit. La deuxième, j'étais pas là. Il y avait les enfants à la maison et ma femme finissait tard. Donc, on jongle un peu, quoi. Et on s'arrange, on essaye de se relever un peu chacun entre nous.
Vous dormez où ?
On va dormir dans un camion, dehors, n'importe où, on verra. Ou on dormira pas, c'est pas grave. Demain, on continuera. Moi, je continuerai jusqu'à midi. Je récupère mes enfants après. et je m'en occupe, je les fais manger, ma femme reprendra le relais et je reviendrai ici après.
Et elle fait quoi, votre femme ?
Elle est chef de caisse dans un supermarché. Elle, est, malheureusement, elle ne peut pas faire grève dans le commerce, on ne peut pas faire grève comme ça, quoi. Même les arrêts maladie, ça passe mal, donc...
Vous, ça fait combien de temps que vous faites éboueur ?
Moi, ça fait 2 ans et demi. Après 15 ans de privé comme cariste dans des entreprises privées, donc lever à 5 heures, avoir des horaires de malade, subir la pression des chefs. Là, je suis à la ville, j'ai le moyen de me mettre en lutte, et ben je me mets en lutte, quoi. J'en profite pour les 15 années où j'ai pas pu. Et je me bats pour mes enfants, pour ma femme aussi, et pour tous les gens de ce pays, en espérant qu'ils soient... qu'ils nous entendent, et qu'ils croient pas qu'on soit là pour faire chier le monde, mais juste là pour les défendre, et se battre pour eux, pour les gens du privé, ceux qui peuvent pas se mettre en grève, ceux qui ont pas la parole, nous on est là pour eux, et on se bat pour tout le monde, pour nous, mais pour tout le monde. Mon travail au quotidien, c'est du balai, du déblaiement de marché dans Paris. Il y en a pour des tonnes de cagettes à pousser, ramasser, mettre dans une benne, par temps chaud, sous la neige, le vent, la pluie. Et nombre de collègues, malheureusement, ils finissent à 60 ans, ils font un an de retraite, et après, c'est comme c'est écrit derrière, c'est le caveau.
Derrière votre gilet, il y a écrit...
Boulot métro caveau. Parce qu'en fait, nous, les ateliers, souvent, ils sont sous terre, donc on appelle ça un caveau. Mais bon, là, c'est un jeu de mots. De toute façon, c'est un cercle vicieux, tout se rejoint. Et...
Il y a des gens qui klaxonnent pour vous soutenir.
Ouais, bah, c'est bien. Il y a plein de gens qui nous soutiennent, même dans les trains le matin. Moi, je prends le train en banlieue à Évry-Courcouronnes, en Essonne. Et les gens, c'est le bordel dans le train. Ils attendent 2 heures, on est tous compressés. Et moi, je sors avec mon gilet et les gens, ils nous soutiennent. Ils sont là avec nous, ils sont là, ouais. Battez-vous pour nous, il n'y a pas de problème, allez-y, allez-y. C'est un volcan qui est en train de brûler et bientôt, il va exploser, j'espère.
C'est clair.
Maintenant que les jeunes, ils sont avec nous, là, ça va bouger. J'ai un fils de 16 ans, il bloque son lycée et je trouve ça très bien, quoi. Ils réagissent tout de suite, ils s'occupent de leur futur à eux aussi. Et c'est bien. Comme nous, on fait pour défendre aussi notre futur et le leur.
Il y a un monsieur qui apporte, dans un camion poubelle, qui apporte des déchets. Les gars l'ont retenu. Qu'est-ce qui se passe là ?
Regarde, je vais lui donner un tract. Tiens, un peu de lecture, tu donneras à tes potes.
Ok, d'accord.
Et franchement, la retraite, c'est pour vous, c'est pour nous.
Mais je sais.
Écoute, là, on tient un putain de centre. Rejoignez-nous.
Ouais.
Rejoignez-nous.
Ok, pas pour l'instant, pas pour aujourd'hui, pas pour ce soir.
Pourquoi tu peux
ce
pas
soir, là, c'est trop tard là. J'ai déjà fini là. Demain, oui, demain c'est possible.
Parlez-en, rejoignez-nous.
Pense à ta retraite. Si tu veux avoir une bonne retraite et la vivre en pleine santé, pense-y. Parce que c'est pas la solution à Sarko qui va te donner une bonne retraite.
Allez, c'est bon.
Que
cette boîte qui force.
Cette boîte, c'est quoi ?
C'est Pizzorno.
Et Régis, toi, tu fais partie des grévistes et t'expliquais à la personne dans le camion qu'elle pouvait faire grève avec vous.
Ouais.
Mais vous êtes employé de la mairie et eux, ils font partie d'une boîte privée de ramassage de déchets sur
mais
Paris.
Mais c'est une multinationale aussi. Hein. Donc, il y a du fric. Hein. Ils peuvent demander aussi à satisfaire leurs revendications, qui sont certainement les mêmes que les nôtres. Mais moi, je l'invite à venir parce que je pense sincèrement qu'on a un gros moyen de pression qu'on peut y compris s'étendre sur d'autres usines d'incinération avec eux. Et des occupations, c'est pas souvent hein, qu'il y en a. Hein. Et je pense qu'on pourrait se partager les luttes et s'organiser, public-privé, interpro, pour arracher, pour gagner, quoi.
Vous, Régis, vous êtes délégué syndical à la CGT.
Oui, je suis secrétaire général du syndicat CGT Julien Toiman. Je suis éboueur. Donc nous, on fait grève parce que On a le choix, le droit de partir à la retraite à 55 ans, pour le moment. Parce que c'est reconnu insalubre. C'est un choix et c'est un droit. Tout le monde ne part pas à 55 ans, il faut avoir les annuités, etc. Dans le même temps, on a beaucoup, beaucoup de copains qui n'arrivent jamais à la retraite. Il faut savoir qu'au plan national, donc les ouvriers vivent 7 ans de moins que les cadres, mais les éboueurs, au plan national, vivent 1 an de moins que les ouvriers. Donc, que le gouvernement dise on va vous faire travailler 2 ans de plus, c'est impossible à imaginer. Pour nous, on n'y arrivera pas. Sans vous parler d'une remunicipalisation, parce que nous, on demande à ce que tout ce qui a été livré au privé revienne en régie municipale. La collecte des ordures ménagères dans 10 arrondissements. Ça date de 86, hein, c'est Chirac qui avait fait les premières privatisations. Et Delannoy, l'année dernière, 2008, a reprivatisé 2 arrondissements. On sait à quoi ça sert. Ça sert à diviser les salariés, à comparer les fonctionnaires au privé et à dire, voilà, le privé, ils sont moins chers. Ça sert public comme privé à faire baisser les salaires et à avoir des conditions de travail qui se dégradent de plus en plus. Et le choix des salaires, c'est le choix de l'emploi, c'est aussi le choix de la croissance. Parce que moi, si on me donne 30% de plus, je ne le mets pas dans ma chaussette. Donc on va relancer la croissance, et c'est par le salaire qu'on va relancer la croissance.
Un salaire des boueurs, c'est combien à peu près ?
Alors il commence au SMIC. Il est à 1300 euros brut. Pour arriver à 1800 euros à peu près, il lui faut 24 ans de carrière.
Y compris les primes ?
Oui, y compris les primes.
Il y a un 13e mois ?
Non.
Et on peut tabler à combien pour la retraite ?
La plupart de ceux que je connais, ils partent à 1100.
À 1100 à la retraite ?
Comment on fait pour vivre ? Du jour au lendemain, on mange pas des soupes parce qu'on n'a plus de dents, quoi. Voilà. Et ça, c'est plus possible.
Alors, la grève, l'occupation, la question, c'est de tenir. On est revenu. Inès est revenue 5 jours après cette première visite.
Olivier, on s'est vu il y a 5 jours maintenant.
Ouais, 5 jours. J'ai continué le blocage. J'ai fait quand même une petite nuit à la maison pour voir les enfants. Il y a des acquis qui ont été gagnés après des dures luttes par les générations précédentes. Et je crois que ce serait pas respectueux de ne pas conserver ce pourquoi eux, ils ont lutté, parfois en versant du sang. Donc nous, on continue, on est motivés.
Physiquement, ça va, vous tenez ?
Le reste, ça va, ça tient. De toute façon, il y a une solidarité maximum, et voilà quoi.
Qu'est-ce que vous faites de vos jours et de vos nuits ?
Qu'est-ce qu'on fait de nos jours et de nos nuits ? Bon, on discute des problèmes, ce qu'on veut, nous on veut voir avancer. Bon, on rigole un peu quand même parce que faut arrêter de s'emmerder. On est dans un coin très agréable entre le périph, des cheminées et tout. Donc essayer de mettre un peu de soleil. Ouais, toute la journée à parler, discuter de nos problèmes, de ce qu'on fait, ce qu'on aime. Apprendre à se connaître et voilà quoi. Là c'est... les 30 personnes qui sont là depuis le départ tout le temps, c'est comme une famille quoi, on va dire. Donc voilà quoi, on s'attache, on a du mal à se quitter, on va dire.
Et en fait, les éboueurs des entreprises privées sur Paris vous ont toujours pas rejoint ?
Ils nous ont toujours pas rejoint, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est éboueur privé à la ville de Paris, c'est souvent des gens qui sont en intérim. Donc les gens n'ont en fait pas beaucoup de moyens de pression. Nous, on a la chance de pouvoir se mettre en grève, même si on perd des journées de salaire. Mais au moins, on peut se mettre en grève sans risquer un licenciement, tandis que des intérimaires, ils perdent le boulot. Donc voilà quoi.
Les Suez, les Pizzorno, les De Richebourg, les entreprises privées sur Paris.
Ils emploient des gens en intérim, ils sont même pas formés pour conduire les engins. C'est plein de choses comme ça quoi. Je pense que si on embauche des gens à la mairie de Paris, s'ils peuvent payer le privé, ils peuvent embaucher nous dans notre direction et prendre des gens et créer de l'emploi quoi. C'est ça aussi le but quoi. C'est nous, si on veut partir à 60 ans, c'est qu'il y a des jeunes derrière. Et les jeunes, il faut qu'ils travaillent. Ouais, on y va à l'AG.
On va à l'AG.
Ouais,
c'est l'AG pour décider s'ils reconduisent ou pas le mouvement de blocage de l'usine d'incinération.
Philippe, vous venez là ? Non, je mets pas le micro. On est entre nous. Oh ! On s'écoute. Donc hier soir, c'est une troisième victoire, on va dire. Des petites victoires, hein, des petits pas qu'on fait. Hein. Mais Delanoë nous a reçus. Tout le monde m'entend. Hein.
Tout le voilà. Monde s'est réuni autour de Régis, le délégué syndical.
Le maire de Paris nous a reçus. Il ne l'a jamais fait. Donc il a un genou à terre. Sur la retraite, il a fait un communiqué de presse en disant « Sur la pénibilité, il faut voir. » Lui, il a pas fait de réquisition. Pour faire le boulot, nous on dit, il a fait pire que des réquisitions. Puisqu'il a appelé l'ensemble des entreprises privées, voilà. L'ensemble, hein, pour surtout que notre grève ne se voit pas. Donc, Delanoë, collabo de Sarko. C'est zéro. Donc, il faut qu'on monte d'un cran. On est capable de tenir.
Un peu.
Ce que je vous propose, c'est pas de reconduire jusqu'à demain, mais c'est de reconduire jusqu'à vendredi matin.
On est mardi.
La manif de jeudi, elle est dans toutes les têtes, donc tout le monde le sait. On a 2 jours devant nous pour renforcer, pour que vendredi, ça soit encore plus fort. Quels sont ceux qui sont pour ?
Ouais,
les bras se lèvent.
On est là.
Quels sont ceux qui sont contre ?
Un bras se lève.
D'accord, j'ai vu, t'inquiète pas. Quels sont ceux qui s'abstiennent? C'est bon, Wagui.
Un bras se lève.
Vas-y.
C'est facile que les gens lèvent la main. Mais quand il faut être présent, c'est là que moi je vais.
Ouais.
Vous voyez, c'est facile de dire oui.
Oui, Wagui a raison. On n'est que 50 à tenir le piquet de grève. Il faut qu'on ait des relais la journée, parce que la journée, c'est facile. Et il faut que les copains de la nuit puissent aller se changer, se doucher, se reposer. On n'est pas des chiens.
Ouais, ça,
c'est bon. D'accord. Et ben on continue, mes camarades.
Et voilà pourquoi on sera tous ensemble demain dans les manifs. Merci à tous. Guillaume Lacroux et Guillaume Roux étaient à la technique aujourd'hui. Koye Nguyen et Franck Aderer ont réalisé cette émission assistée d'Agnès Lebot et Marina Touyez. Attends vos messages au répondeur de la basse IGT au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Pour tout le reste, allez sur la page France Inter à la rubrique La basse IGT ou sur labas.org. La-bas.org réclame.
France Inter, partenaire du festival Les Un Rock, du 3 au 9 novembre à Lille, Nantes, Toulouse et Paris. Au programme, Beach House, Midlake, Karl Barat, Philippe Catherine en invité spécial. Et en clôture du festival, grande soirée au Zénith, le 8 novembre, avec LCD Sound System et Jamaïca. Retrouvez le festival Les Un Rock en direct sur France Inter avec Bernard Lenoir, les 4 et 5 novembre à partir de 21h.
À demain dans les manifs et on verra pour la suite. Il est 16h sur Inter. Je vous laisse pour les infos avec Émilie Defay. Salut!
Ambiance houleuse à l'Assemblée nationale où se déroule actuellement la séance de questions au gouvernement qui sera ponctuée d'ici quelques minutes par le vote définitif de la réforme des retraites. Dernier acte législatif du projet de loi. L'opposition ne s'avoue toutefois pas vaincue. Le PS a annoncé son intention de saisir le Conseil constitutionnel. Les syndicats veulent eux aussi continuer à peser. Ils appellent à une nouvelle journée d'action demain. Des perturbations sont donc à prévoir dans les services publics et dans les transports. Notamment 50% des vols annulés à Orly, 30% dans les autres aéroports. La SNCF prévoit de son côté 7 TGV sur 10. En revanche, la grève a été levée aujourd'hui dans deux nouvelles raffineries, à Petit-Couronne en Seine-Maritime et à Lamède dans les Bouches-du-Rhône. Mais les raffineries françaises restent pour l'instant à l'arrêt tant qu'elles ne sont pas réapprovisionnées en pétrole brut. Les anciens salariés de Molex, écœurés par le résultat record annoncé ce matin par l'équipementier automobile, 75 millions de dollars de bénéfices l'an dernier et une augmentation de 15% du dividende versé aux actionnaires. Et dans le même temps, l'entreprise américaine refuse toujours de financer le plan social de l'usine de Villemur-sur-Tarn qu'elle a fermé l'an dernier. En représailles, Christian Estrosi, le ministre de l'Industrie, a demandé à PSA et Renault de boycotter Molex. Ben Laden s'en prend une nouvelle fois à la France. Dans un message audio, le chef d'Al-Qaïda justifie la prise d'otages de 5 Français au Niger par, je cite, « les injustices faites aux musulmans en France », notamment la loi sur le voile islamique. Ben Laden promet également de nouveaux enlèvements si la France ne retire pas ses troupes d'Afghanistan. La Corée du Nord, qui souffre de pénuries alimentaires chroniques, vient de demander à sa voisine du Sud quelques 500 000 tonnes de riz et 300 000 tonnes d'engrais. Une demande inhabituelle qui intervient alors que les deux pays négocient en ce moment sur le programme de réunion des familles séparées par la guerre de Corée. Mais rien ne dit, Frédéric Orjadias, que la Corée du Sud accède à cette demande.
Faut-il s'attendre à une nouvelle famine en Corée du Nord? Depuis 3 ans, la Corée du Sud refuse toute aide alimentaire massive à Pyongyang et le président sud-coréen, un conservateur, est un partisan convaincu d'une ligne dure vis-à-vis d'un frère ennemi qui consacre une part importante de ses ressources à s'équiper de l'arme nucléaire. Le torpillage de son patrouilleur en mars dernier avait confirmé Séoul dans ce refus. Mais en Corée du Nord, la situation alimentaire continue de se dégrader. La semaine dernière, le secrétaire général des Nations Unies, le sud-coréen Ban Ki-moon exprimait son inquiétude. Le Nord a été ravagé par de très fortes inondations cet été et selon l'ONU, ses récoltes seront 20% plus faibles cette année. Son déficit en céréales s'élèverait à 1,1 million de tonnes. Chacun ici se souvient de la terrible famine qui avait fait près d'un million de morts dans les années 90. Or, cette demande d'aide est très rare de la part du régime de Pyongyang. Elle correspond donc probablement à une véritable urgence sur le terrain, mais rien ne dit que Séoul, toujours très remonté contre son voisin du Nord, l'acceptera. Séoul, Frédéric Ojardias, France Inter.
On a appris la mort de l'ancien président argentin Néstor Kirchner. Kirchner, il avait 60 ans, c'était le mari de l'actuelle chef d'État, Cristina Kirchner, et il était pressenti pour se présenter à l'élection présidentielle en 2012.
Mardi 2 et mercredi 3 novembre, you know, élection de mi-mandat aux États-Unis. Deux matinales spéciales sur France Inter en direct de Washington. La semaine prochaine, les électeurs américains seront appelés aux urnes pour l'élection du nouveau Congrès et d'une partie des gouverneurs d'État.
France Inter mobilise l'ensemble de sa rédaction et vous fait vivre en direct les résultats de ces élections de mi-mandat. Each of you
can make a difference. Mardi et mercredi à partir de 6h, deux matinales spéciales avec Audrey Pulvar, Patrick Cohen et Pascal Clark en direct de Washington.
Retrouvez aussi tous les autres rendez-vous de la rédaction, le dossier complet et les résultats en direct sur franceinter.com.
France Inter présente Sanseverino, les embouteillages. Le meilleur de Sanseverino. Tu n'auras plus d'ongles. André, Frida, maigrir la cigarette. Sanseverino sera à l'Olympia le 1er novembre. Retrouvez Sanseverino dans le programme musical de France Inter. France Inter. France Inter.
La différence.
16h05 sur France Inter, c'est l'heure de Carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric L'Odéon.
Bonjour Émilie. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, une pluie de rééditions chez EMI Classics. Tout d'abord, concerto pour violon d'Antonin Dvorak. On connaît mieux celui pour violoncelle, qui est fameux, bien sûr, à juste titre. Celui écrit pour le violon est un peu plus inégal, mais quand même, il a de belles qualités, notamment un final axé sur des thèmes de style populaire. Et le virtuose qu'on va entendre, c'est le superbe Itzhak Perlman. Et c'est un violoniste tellement extraordinaire, on l'aime tellement. Lui qui n'a pas pu jouer au football avec ses petits camarades quand il était petit en raison d'une polio contracté vraiment de manière sauvage et qui l'a empêché de bouger, mais évidemment tout dans la tête bouge admirablement, les doigts aussi, l'archer, la main gauche, et c'est vraiment un trésor musical vivant, comme disent nos amis au Japon par exemple. Allegro giocoso, joyeux, de ce concerto pour violon d'Antonin Dvorak qui mérite d'être mieux connu. Thank you.